De Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec aujourd'hui Routel Krief, éditorialiste à LCI, et l'académicien Marc Lambron, qui passent leur temps à discuter d'actualité. C'est bien normal, ils sont là pour ça. Nous sommes tous des paysans. Formulation d'un député socialiste hier à l'Assemblée nationale, ovationné par tous ses collègues. Nous sommes tous des paysans, les agriculteurs ont bon dos.
Alors, moi, cette phrase m'a beaucoup frappée parce que, effectivement, ovationnée, j'ai été touchée. Et c'est vrai qu'on assiste à un mouvement de sympathie, d'identification, de réconciliation, de quelque chose qui est assez émouvant et fort et qui va durer. Et qui est intéressant parce qu'il rejoint un peu tout ce qui aujourd'hui veut retrouver les valeurs fondamentales de l'histoire de France, de vous savez cette fameuse phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron et qui lui a été reprochée, que pour que la France reste la France, après on y met ce qu'on veut, mais enfin les paysans, c'est la France dans son histoire, c'est la France dans ses paysages. Mais aussi, je me suis dit, il y avait une forme de culpabilité.
Bah,
parce que, bah oui, ils parlent et ils pleurent depuis très longtemps. On ne les entend pas assez, on ne les aide pas assez. Et nous, consommateurs, on ne va pas chercher obligatoirement leurs produits et on cherche à acheter le moins cher possible. Et donc, c'est un mélange de sentiments et je ne sais pas ce que ça va donner. Pour le moment, c'est de cette sympathie, mais combien de temps ça va durer ?
Marc Lambron.
Bon, nous sommes dans l'histoire. Vous savez qu'il y a des révoltes urbaines, des révoltes rurales. Alors, du côté de l'urbain, on a eu la Fronde en 1789, les révolutions du 19e, mai 68. Là, on est du côté, il y a une tradition déjà crie paysanne. Il y a eu un syndicalisme fasciste, hein, d'Orgère dans les années 30. Et même dans le poujadisme, c'était les petits commerçants, mais il y avait quand même, il y avait aussi leurs fournisseurs, jusqu'au gilet jaune. Bon, alors, le paysan français, c'est quoi? C'est une sorte de mal-aimé résiduel, qui d'ailleurs n'est pas aimé par les Verts, parce que l'agriculture française est productiviste. Et en ce moment, c'est la guerre des Rousseau, puisque Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSEA, face à Sandrine Rousseau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le malheur paysan? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, beaucoup de gens le disent en ce moment, une inflation des normes, aussi bien européenne que française, qui d'ailleurs à la fois les protège, mais en même temps les contraint. Il y a quand même la loi d'airain de la grande distribution qui impose ces dictates pour les circuits de vente. Il y a un renchérissement des coûts de l'énergie, c'est une agriculture très énergivore parce qu'elle est mécanisée. Il y a évidemment les produits concurrentiels qui sont importés, qui viennent d'Asie, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Amérique latine.
Et un peu d'Ukraine.
Voilà. Et puis, de manière générale, je disais, il y a une sorte d'invisibilisation de la vie rurale. Si vous regardez une émission comme le Bonheur est dans le Pré.
Exactement, sur M6.
Et ben, qu'est-ce que vous voyez?
Qui est une des émissions les plus regardées.
Oui, ben, comment sont-ils présentés? Ils sont présentés comme des malheureux, assez insulaires, abandonnés, que la providence de la télévision pourrait doter en compagne sacrificielle. Bon, c'est ça.
Ou compagnon.
Ou compagnon. Alors, dernière chose, je pense que le gouvernement a raison de s'inquiéter, parce que quand une population stoïque commence à s'insurger, c'est qu'il y a le feu au lac.
Est-ce qu'il n'y a pas une crise aussi de la transmission, et notamment de la transmission d'un modèle que les jeunes générations n'ont pas envie de se réapproprier?
Mais ça, c'est d'ailleurs un des objets de la loi qui est reportée, c'est sur la transmission aux nouvelles générations des parcelles, des fermes. Il faut savoir quand même que l'agriculture française, c'est pas seulement des petites exploitations, elles sont très nombreuses, elles ont beaucoup diminué ces dernières années, mais elles restent encore très nombreuses, et il y a une grande partie qui sont des très grosses exploitations, beaucoup plus riches, et globalement, on est dans des paysans qui ont ce lien à la terre, mais aussi des entrepreneurs. Ce sont des petits chefs d'entreprise ou des gros chefs d'entreprise selon la taille de leurs exploitations. Et ils sont en train d'essayer de défendre leur production, leur métier, leur vie, leur travail. Et c'est ça qui touche les Français, je crois, aujourd'hui. Et c'est assez intéressant parce que on voit bien, ils sèment le désordre, il faut être clair. Les blocages
fini,
d'autoroutes,
hein.
le dépôt de fumier sur les rails, ou bien le le dépôt de déchets devant une préfecture. Tout ça, c'est pas facile. Ça va compliquer la vie des Français, compliquer la vie du gouvernement. Mais regardez, écoutez, personne pour le moment, Gérald Darmanin en tête, mais ni les partis qui sont souvent les partis demandeurs d'ordre, ne demandent la fin des manifestations. Voilà.
Je vais parler d'un autre type de transmission qui installait la vie rurale, la vie paysanne dans la psyché française. C'était la dictée. Combien de dictées étaient signées par Giono, Colette, Henri Pourrat, Joseph de Pesquidou, Maurice Pagnol, Maurice Genevoix. Je pense que les
Marcel Pagnol.
Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit Maurice.
Pardon, Maurice Pagnol. Alors là, je suis mal réveillé. Évidemment, Marcel Pagnol de l'Académie française. Voilà. Non mais moi, dans mon enfance.
Vous parlez de dictées qui avaient pour cadre l'espace rural. Giono.
Oui.
Il y a un texte merveilleux de Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. C'est formidable.
Voilà. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans
Agnès Laloire et les garçons de Maurice Genevoix.
Ah voilà. Et oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a maintenant dans les dictées. Et Colette, magnifique texte sur la nature, sur la campagne, sur la France.
Alors, je voudrais qu'on reparle de l'aspect politique. Il y a l'unanimité, nous sommes tous des paysans, mais en même temps, les partis politiques se servent de cette crise pour taper sur d'autres partis politiques. Les écolos, la droite leur tape dessus en disant, ben vous voyez, vous êtes, et d'ailleurs Marc l'a rappelé à l'instant, les écolos, vous êtes les artisans du malaise paysans, alors que les écolos rêvent d'une autre paysannerie. Ouais. Ils ont leur modèle à eux, ils ont des solutions qui marchent aussi, mais c'est pas les solutions qui peuvent être adaptées à toute l'agriculture française. Le Rassemblement National tape sur les partis européistes, évidemment, etc., etc.
Enfin, c'est un des gros enjeux.
La crise agricole, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens.
C'est un des grands enjeux qui était relativement inattendu au sens où il est devenu très brûlant de ces élections européennes. Et on voit bien la difficulté du coup en l'occurrence des écologistes qui sont un peu clos au pilori. Hier, Gabriel Attal a parlé des larmes de crocodile, de ceux qui décrivent les agriculteurs comme des tortionnaires d'animaux, etc. Enfin, il a été très violent. On voit la difficulté de ceux qui soutiennent un certain nombre de... Enfin, le Green Deal ou d'autres textes européens. On voit la récupération, la volonté de récupération par le Rassemblement National et Jordan Bardella qui s'y les campagnes, tout en demandant la fin de l'Europe, donc la fin de la PAC, donc la fin de l'aide européenne à l'agriculture qui est la plus importante en France, pour la France, donc en fait avec beaucoup de contradictions, et effectivement ça va être un des grands sujets.
Il y a une séquence qui est la séquence, si j'ose dire, habituelle dans ces crises, qui est la séquence de crispation, d'occupation, de mobilisation. Et puis il y a les premiers mots prononcés par le Premier ministre ou le ministre de l'Agriculture, ou les deux en même temps. Et puis ensuite vient le temps de la négociation. Tout cela obéit à un rituel, Marc Lambron?
Oui, je crois que c'est comme des figures de style dans un texte. Il y a un ballet politique, il y a des usages, il y a des tropes, des figures obligées. Parce que là, au fond, la crise la plus grave récemment, c'est les gilets jaunes. Ça part de quoi? Ça part d'une taxe sur les carburants, qui est au fond écologique de principe, et qui rencontre la contingence, la difficulté d'être, la façon de vivre d'une bonne partie de la France dite périphérique, et notamment de la France rurale.
Moi, je voudrais vous faire revenir, Marc Lambron, sur la question du discours. Le discours moderne, et il ne concerne pas uniquement l'agriculture, mais il concerne aussi les entreprises, qui est un discours qui dit « adaptez-vous au monde qui vient ». C'est une injonction et qui est souvent paradoxale en matière agricole. Et je me demande si c'est pas ça aussi qui rend fou les gens qui se mobilisent aujourd'hui.
C'est-à-dire que le greenwashing, pour parler français, est devenu plus qu'une mode. C'est comme un label maintenant. Et l'adaptabilité des diverses structures à cela, elle est variable. On voit bien quand même le virage opportuniste d'un grand nombre de firmes qui maintenant vendent du verre. au moment où les agriculteurs ont peut-être un verre moins bio qu'ils l'étaient autrefois. Ce qu'on appelle le bio, moi, c'était les poireaux du jardin de mon grand-père. Hein. On ne disait pas que c'était bio à l'époque. Donc, il y a toute cette, tous ces courants, toutes ces modes. Alors, après, on a beau jeu de dire que ce sont les bobos parisiens qui stigmatisent ceux qui utilisent les engrais chimiques.
Ils stigmatisent pas, ils disent l'agriculture doit aussi aller vers le changement. Mais est-ce que tout est voué à aller vers le changement? Non. Est-ce que tout est progrès? Est-ce que les campagnes sont vouées à progresser, les agriculteurs à changer de pratique?
Il y a des événements climatiques. Non, mais il y a des événements climatiques que les agriculteurs eux-mêmes ressentent et ils s'adaptent. Alors la question, c'est est-ce que on leur fait confiance pour s'adapter à ces changements climatiques ou est-ce qu'on établit un certain nombre de normes et beaucoup trop apparemment qui les obligent à respecter un certain nombre de règles et qui créent de la défiance et qui leur font qui créent chez eux un sentiment de tristesse parce qu'on a ils ont l'impression qu'on leur fait plus confiance sur la connaissance de la nature, sur ce qu'ils connaissent le mieux. Donc là, il y a un vrai différent. Alors évidemment, du côté des écologistes, on dira pas du tout. On est d'accord et on va chercher à ce que la nature soit préservée et les agriculteurs le comprennent mieux que quiconque.
Juste une phrase dans le golfe de Gascogne. Que les pêcheurs périclitent pourvu que les dauphins survivent.
Anatomie d'une lutte, c'est la une de Libération ce matin, et donc c'est un clin d'œil, évidemment, enfin un peu plus qu'un clin d'œil, c'est le gros titre pour résumer la crise agricole, et puis c'est un clin d'œil à Anatomie d'une chute, la Palme d'Or de Cannes, et c'est un film que vous suivez de près, si Route ne l'a pas encore vu, vous l'avez vu, Marc Lambron, vous pourriez nous en parler?
J'ai vu le film, j'ai vu la cérémonie de Cannes, et j'ai vu il y a deux jours la cérémonie des Golden Globes. Alors, Golden Globes, c'est la cérémonie où la presse étrangère d'Hollywood décerne ses récompenses. Et en général, c'est assez prémonitoire de ce qui va se passer aux Oscars. Alors, Justine Triet a reçu deux Globes d'or. Je crois un pour le meilleur film étranger, l'autre pour le meilleur scénario. Et là, elle est nommée 5 fois pour les Oscars. Alors, ce qui était intéressant, c'est le discours qu'elle a tenu. Parce que, autant à Cannes, elle a expliqué que le système de financement français du cinéma qui lui a permis de faire son film était en banqueroute, contradiction dans les termes. Alors là, elle s'est pliée plutôt à le côté Bob Hope, vous savez, des cérémonies, c'est-à-dire faut faire une petite blague.
Comme ils le font tous, hein, généralement.
Oui,
ils
essayent de faire. C'est écrit à l'avance. C'est
un mot d'esprit.
Elle avait de l'humour et elle était assez charmante. Alors, elle fait campagne. Alors on pourrait dire que bon, très bien, elle s'est amendée après sa philippique cannoise. On peut aussi dire qu'elle fait preuve d'un certain opportunisme ou d'un certain caméléonisme en respectant les usages et les règles de la scène hollywoodienne qui lui permettront peut-être dans un mois, puisqu'elle est 5 fois nommée, de décrocher des Oscars et donc de se faire de plus belle financée par le système français, d'avance sur recette, les Sofica, les télévisions qui doivent cracher aux bassinettes,
etc. Tout en ayant les honneurs du cinéma capitaliste américain, ce qui est formidable.
Je n'avais pas besoin de voir le film pour dire à peu près la même chose que Marc.
C'est vrai.
Mais moi, je veux vous dire quand même que je suis assez fière que ce...
C'est un très bon film. Hein,
oui, mais je crois que c'est un très bon film. C'est vraiment une question d'emploi du temps et de bref. Mais je suis quand même assez fière qu'il y ait une réalisatrice française qui soit aux Oscars et une femme, 8 femmes seulement sélectionnées aux Oscars comme meilleure réalisatrice, une française. Moi, je suis, après tout, passons au-dessus de cette polémique que je comprends très bien qu'évoque Marc. Je suis d'accord, j'étais un peu déçue par son discours des Césars par rapport à ce que j'attendais d'elle, parce qu'elle a fait des choses avant très intéressantes. Et donc, aussi soyons contents et soyons fiers qu'il y ait une femme réalisatrice pour un excellent film aux Oscars.
Le double standard, c'est pas nouveau. Parce que Yves Montand faisait des tournées en Union soviétique et il tournait Le Milliardaire avec Marilyn Monroe à Hollywood. Donc, la gauche française, elle sait y faire, si vous permettez cette expression.
Mes amis, Ruth Elkrief, Marc Lambron, on va se séparer avec un extrait du Köln Concert du pianiste Keith Jarrett, concert mythique à Cologne, un 24 janvier 1975. Un concert dont les premières notes furent inspirées par la sonnerie de la salle pour annoncer le début du récital. Merci Ruth, merci Marc. À la semaine prochaine, on écoute Keith Jarrett.